journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs. L'antenne d'Africa numéro 1 vous appartient jusqu'à 14h, heure de Paris environ. Aujourd'hui, dans le JDA, nous parlons du Burkina Faso, confronté à une grave crise sécuritaire. Le pays a accueilli mardi un sommet du G5 Sahel, dont il prend la présidence, autrefois épargné. Le Burkina Faso fait face depuis 2015 à de nombreuses attaques terroristes qui tendent à se transformer en conflits intercommunautaires avec le massacre de plus de 200 peuls à Yirgu, selon les chiffres du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. C'était le 1er janvier dernier. Alors pour tenter d'apporter des réponses à cette crise, le président Roch Marc Christian Kabore a nommé un nouveau Premier ministre et limogé le chef d'état-major. Cela peut-il suffire à sortir le Burkina Faso de l'œil du cyclone? Nous en parlerons dans quelques instants avec Aziz Dabo. Il est secrétaire exécutif adjoint et porte-parole de la NAFA, c'est la nouvelle alliance du Faso, parti d'opposition dirigé par Djibril Bassolé. Pour participer à l'émission, posez vos questions à notre invité. Appelez-nous dès maintenant au 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00. Mais avant cela, on se tourne vers le répondeur pour écouter vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Oui, bonjour, c'est Madame Stéphanie Hartmann. C'est Barou Salah du Sénégal. Donc tout à l'heure, j'ai écouté la radio, là, c'est l'émission des journaux des éditeurs. Il y a un Sénégalais qui s'appelle de région de Tambacounda. Il parlait de Soninké. Ce que monsieur a oublié de dire, qu'au Sénégal, je crois, toutes les régions, ils ont le même problème qu'eux. Parce que nous aussi, nous, on est des Halplal, on est des pommes de toutes couleurs. Donc chez nous, tout ce qui est fait chez nous, c'est nous qui l'ont fait. C'est les immigrés qui sont à l'étranger. On a construit l'école, on a construit le dispensaire, on a construit le collège. Même la mosquée, c'est nos vieux qui l'ont construit. Donc c'est les diasporas, comme on dit, qui ont tout ce qui est au village, c'est nous qui l'ont fait. Donc il n'y a pas que chez eux que ça existe. Dans tout le Sénégal, dans toute la région, malheureusement, c'est ça. Donc il faut qu'il évite de dire que les Sénégalais qui ne votent pas parce qu'on a fait pour vous, rien fait pour vous. Donc moi, qu'est-ce qu'il n'a pas comme nous, mais il n'a rien fait pour nous. C'est nous-mêmes qui avons tout fait pour nous. Voilà, c'est juste ce que je veux dire, quoi. Bon, qu'il m'excuse, quoi. C'est pas question de... Voilà. Bonne journée, au revoir.
Bonjour, Julien. Bonjour, les invités. Je voulais intervenir parce que, je ne sais pas, nous les Africains, là, nous les Africains, on veut quoi dans ce monde-là? On veut quoi? Depuis le monde est créé, on entend se plaindre. C'est la France, c'est la France, c'est la France. Quand on va arrêter ça même? Franchement, on n'a qu'à réfléchir quand même. Et... Non, vraiment, c'est une honte. C'est une honte totale. Non, les Camerounais, là. C'est eux-mêmes Yakuza sur moi. Ils sont là, ils sont en train de se mener dans la politique des gens, partout à gauche, à droite. Il y a un Camerounais qui a intervenu la dernière fois. Je remercie le monsieur. Il a dit quoi? Il dit le Cameroun souffre. Ça va pas chez le Camerounais. Cameroun souffre. Venez aider Cameroun. Monsieur, je te remercie. Toi, tu es un vrai Camerounais. Je sais que tu penses à ton propre pays. Tu ne penses pas à les autres pays. Pour dire, ouais, voilà, ça va pas en Côte d'Ivoire, tu mets pas ta bouche dans la politique des autres pays comme Burkina, Côte d'Ivoire, Sénégal. Voilà, tu penses chasser le cadavre qui est chez vous, laisser les autres tranquilles. Merci, Baska. Au revoir.
Bonjour, Africa numéro 1. Bonjour, tous les auditeurs, tous les Africains, et tous les animateurs et tous les animatrices à la radio africaine qui nous donnent toujours des possibilités de nous exprimer. Et notre colère, notre joie, notre inquiétude dans la radio. Merci à vous. Et je profite de l'émission d'hier des diasporas. L'invité, il était à la radio hier. J'ai pas eu le temps d'appeler pour poser quelques questions. Donc, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Ça, aujourd'hui, c'est mon souci. Je voulais vraiment créer une entreprise en Afrique, une entreprise du bâtiment, entreprise de finition, après de gros œuvres jusqu'à la finition, quoi. Donc à chaque fois quand je pars en Afrique, j'ai remarqué des choses, il n'y a pas de finition, il n'y a pas de finisseur. Donc malheureusement, leurs conditions d'âge, moi je dépasse l'âge des 45 ans, mais je voulais savoir quand même avec eux,
si je peux profiter avec le système, moi, mon projet de former des jeunes Africains de la peinture. Moi, mon métier, c'est de la peinture. J'ai 20 ans d'expérience dans le compteur d'expérience, dans mon compteur. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, mon projet aujourd'hui est de créer une entreprise de formation de jeunes Africains et pour la peinture. Donc, peintre en bâtiment jusqu'à la finition. Vraiment, c'est ça mon projet aujourd'hui. Voilà, c'est une possibilité pour moi d'aboutir mon rêve. Voilà, c'est mon souci aujourd'hui. Je vous remercie. Africa numéro 1, au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Alors, pour répondre à l'auditeur qui voulait postuler au programme dont on parlait hier pour soutenir les entrepreneurs de la diaspora qui veulent rentrer au pays. Il ne s'agit pas de faire une entreprise et de faire des allers-retours, mais plutôt de rentrer, s'installer dans les pays concernés. Je crois que c'est le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso justement et le Sénégal. J'ai remis l'adresse de Diaspora Entrepreneurship, l'adresse mail, le site internet de Diaspora Entrepreneurship. Vous pouvez encore, je pense, postuler jusqu'à ce soir minuit. J'ai mis l'adresse sur la page Facebook de l'émission, facebook.com/journal des auditeurs. Aujourd'hui, dans le JDA, nous parlons plutôt de la crise sécuritaire au Burkina Faso. Les réponses du gouvernement sont-elles à la hauteur? Pour participer, 01 55 07 58 00. Nous en parlons tout de suite avec Aziz Dabo. Il est secrétaire exécutif adjoint et porte-parole de l'ANAFA. C'est la nouvelle alliance du Faso, parti d'opposition au Burkina. Aziz Dabo, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'être avec nous. Première question, avant d'écouter et de donner la parole aux auditeurs. Le président Maroc, Marc-Christian Caboret, a nommé un ancien ministre de Blaise Compaoré, Christophe Dabiré, comme nouveau Premier ministre. Est-ce que ce remaniement vous semble une première bonne réponse à cette crise sécuritaire?
Il est difficile pour nous d'apprécier, bien sûr, le futur travail du Premier ministre qui vient d'être nommé. Et nous prenons acte de cette nomination en espérant bien sûr qu'il pourra répondre aux attentes des Burkinabés. Mais ce que nous savons de cet ancien ministre de Blaise Compaoré, c'est qu'il est quelqu'un de modéré, c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui est sage. Donc on espère qu'il pourra bien mener sa mission. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le président Roch Marc-Christian Caboret lui-même, il est resté 27 ans avec le président Compaoré. Donc je pense que c'est tout à fait normal qu'il se retrouve au sein de la même famille. Nous n'y trouvons pas d'inconvénient. Maintenant, ce que l'opposition avait demandé, c'était le remplacement du ministre de la Sécurité et le remplacement du ministre de la Défense au vu des résultats catastrophiques sur le terrain, parce que tous les jours, ce sont des attaques à répétition.
Et ça a été fait.
Ça a été fait. Le président du Faso a accédé à une des requêtes de l'opposition en changeant ces deux ministres. Et nous osons espérer que ce casting qui a été fait au sommet de l'État saura répondre, bien sûr, aux attentes des populations du côté du Nord et du côté du Sahel, parce que ce sont les deux zones qui sont vraiment touchées par les attaques terroristes à répétition.
Alors justement, des hommes armés ont encore attaqué hier soir, mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi plutôt, une brigade de gendarmerie, c'est dans la ville de Kongoussi. Il semblerait que la ville de Kongoussi soit située à peu près 100 km de la capitale, Ouagadougou, c'est bien ça?
Oui, la ville de Kongoussi est située dans le centre nord, exactement autour de 5 km de Ouagadougou.
Est-ce que ça vous inquiète, cette proximité, ces attaques qui se rapprochent finalement aussi de la capitale?
Effectivement, ces attaques qui se rapprochent de plus en plus de la capitale Ouagadougou nous inquiètent, parce que 100 km de Ouagadougou, c'est à une heure de route de Ouagadougou. Ça ne peut que nous inquiéter et nous nous posons énormément de questions. Parce que chaque jour, nous ne faisons que recevoir des alertes sur nos téléphones portables respectifs, d'attaques. Et les attaques ont quitté le Sahel, ont quitté le Nord. Ça s'est retrouvé du côté de l'Ouest, dans la région des Cascades à Banfora. Donc, on est quand même inquiet. Et il y a une nouvelle carte qui est sortie, plaçant pratiquement Ouagadougou dans une zone orange. Donc, tout ça, nous sommes aujourd'hui très inquiets de la situation, parce que chaque jour que Dieu fait, ce sont de nouvelles attaques. Mmh. Et ce qui nous inquiète le plus, c'est que, par exemple, du côté de Nassoumbou, dans le Sahel, ça veut dire où il y a le groupement des forces antiterroristes, près de 300 personnes lourdement armées auraient attaqué une position des forces de défense et de sécurité. Ça, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant, pourquoi? parce qu'on ose se dire que si 300 personnes se déplacent, ça fait quand même un énorme bruit. Mmh. Je ne sais pas exactement quels sont leurs moyens de transport, mais ça veut dire que quelque part, l'information n'a pas pu atteindre les forces de défense et de sécurité pour que les dispositions soient prises pour riposter violemment. C'est que ça pose un problème. Ça veut dire que le renseignement pourrait être défaillant. Il faut travailler de telle sorte à ce que la confiance existe entre les forces de défense et de sécurité et la population pour que les informations arrivent afin que nous ne soyons pas toujours ceux qui soient attaqués et pour riposter. C'est ça aussi la difficulté. Parce qu'on a l'impression que nous sommes attaqués et nous sommes toujours en train de riposter. Et non ceux qui ripostent, ceux qui attaquent d'abord plutôt.
Dans l'action plutôt que dans la réaction. Mais alors justement, Addis Dabo, qui sont ceux qui attaquent? Vous avez évoqué tout à l'heure le terme de terroriste. Ces attaques sont rarement revendiquées. On parle parfois à l'armée, parle parfois d'hommes armés non identifiés.
Oui,
qui sont ceux qui attaquent le Burkina Faso? Ce sont des Burkinabés eux-mêmes. Parce qu'on va le voir, il y a aussi une question communautaire. Je rappelle le massacre de Yirgu, où selon plusieurs ONG, il y a au moins une centaine de victimes
de la communauté Peul. Avec exactitude, qui sont ceux qui attaquent le Burkina Faso? Je ne pourrais pas vous le dire parce que ce sont des hommes armés non identifiés. Bien sûr, si je le savais, ce serait bien volontiers que j'aurais donné ces informations aux forces de défense et de sécurité pour bien sûr les neutraliser. Donc, mais je voudrais vous faire un bilan quand même datant du 5 février 2019. Au 5 février 2019, nous avons eu 201 attaques, dont 81 attaques contre les positions des forces de défense et de sécurité et 120 attaques contre d'autres forces de défense et de sécurité. Avec 558 morts, 112 forces de défense et de sécurité dedans, 446 civils qui sont tombés. Il faut aussi noter que nous avons eu 272 blessés. Parmi les 272 blessés, vous avez 143 forces de défense et de sécurité, 129 civils. Et en récapitulant tout ça, nous avons 900 écoles fermées, 500 000 enfants qui sont privés d'enseignement aujourd'hui et vous avez près de 82 000 personnes déplacées selon les Nations Unies. C'est pour vous dire jusqu'à quel point c'est très grave au Burkina Faso et nous avons toute une zone que nous sommes en train de perdre au profit de ces terroristes.
Merci Aziz Dabo. Restez à l'écoute, on va donner la parole aux auditeurs. On commence avec Mamadou. Mamadou, bonjour.
Oui, bonjour Madame Atman. Si ça ne vous dérange pas, prenez-moi dans 5 minutes, j'arrive parce que je suis dans les transports.
Alors, je vous prends dans 5 minutes, vous arrivez. C'est magnifique, il n'y a pas de souci. Moi, je m'adapte. Je vous garde en ligne et puis je reviens vers vous dans 5 minutes, alors Mamadou. Camara, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphane Atman.
Bonjour Monsieur Camara. Ça vous inquiète, cette extension de la violence?
Oui, ben, seulement qu'on est en train de parler du Burkina. C'est-à-dire, d'abord, nous, on cherche de quoi manger correctement. S'ils s'amènent qu'on s'entretue, c'est-à-dire, ça vaut le coup d'être interpellé, quoi. Parce que nous sommes à l'extrême. Parce que je ne connais pas encore un pays africain qui peut fabriquer des armes. Donc, ces armes-là qui sont données à A et B, c'est-à-dire pour s'entretuer, là. Mais on
peut pas. Je vous rassure, il y a un marché noir de l'arme. Ce n'est pas forcément les fabricants d'armes qui les vendent, d'ailleurs.
Ouais, je le sais, mais
bon, je pense que l'Afrique du Sud fabrique des armes, Camara.
Non, je ne pense pas que l'Afrique du Sud le fabrique autant, Stéphane Hartmann.
Alors, si on comprend bien votre logique, Camara, c'est-à-dire que finalement, s'il n'y avait pas d'armes, il n'y aurait pas de conflit, c'est bien ça?
Ouais, mais c'est le conflit, des choses de supériorité et puis choses là. C'est ça qui envoie tout ça là. Parce que si nous sommes arrivés à l'extrême, est-ce qu'il y a quelque chose de plus bon que la vie? Si quelqu'un, c'est-à-dire, renonce à la vie, déjà, non, nous sommes à l'extrême. Ça veut dire la personne, il n'en peut plus.
Bon. Et sur le Burkina Faso, sinon, Camara, vous avez quelque chose à ajouter?
Je préfère payer un sac de riz que, c'est-à-dire, une Kalachnikov, normalement.
Bien sûr.
Mais du coup, mais si tout le monde est en possession d'armes, mais il va. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas comme un genou. Du coup, tu vas vouloir l'utiliser d'un moment à l'autre. Les gens sont à bout. Les gens, ils sont à bout. C'est ça le problème. Donc,
alors finalement, Camara, ce qu'on entend et ce qu'on a vu aussi, peut-être parfois du côté du Mali, il y a peut-être une similitude entre ce qui se passe au Burkina Faso et au Mali. C'est-à-dire que face à l'insécurité, il y a des gens qui s'arment aussi et ça crée un cercle vicieux de la violence. C'est ce que vous dites.
Effectivement, d'accord. Parce qu'actuellement, okay. On parle d'un seul pays, alors que ça va prendre petit à petit tout l'Afrique. C'est pour ça que j'ai dit, c'est-à-dire, quand tu vois l'épervier sur le corps humain, il faut dire, lève-toi de mon corps, parce que ça va arriver ton tour. Ça va arriver au moment, les affaires de Kouana au Mali, étant malien, mais tout le monde disait, mais le Mali est embrasé par des terroristes, mais voilà, c'est en train de parler doucement, tout le monde en sera concerné. Tant qu'il y aura cette manière où les gens, vraiment, on devient tous aigris d'un moment à l'autre, mais nous, on n'a pas les moyens, mais si vous les donnez, c'est-à-dire, tu prends, disons, des armes au prix banal aujourd'hui, c'est-à-dire pour conquérir un poste pour quelqu'un, mais après, et en général, toutes les questions politiques, moi, je n'ai pas vu un président ou bien un opposant qui meurt dans les marches ou bien tout. C'est, les gens n'ont pas se réveillé en quelque sorte, quoi. Ça, je veux dire. Tu vois, non.
Okay.
Je n'ai pas vu d'opposant ou bien de président au pouvoir qui est mort. Salut dans les marches.
Oui, mais mes camarades, moi, j'ai du mal à vous suivre. J'avais capté un petit truc, mais là, je comprends plus. Il n'est pas question ici d'opposition et de pouvoir. Mais merci beaucoup, camarades. On a bien compris. Par contre, effectivement, le fait que les gens s'arment peut susciter un cercle vicieux de la violence. D'ailleurs, Aziz Dabol, je vous ferai une question tout à l'heure, hein, peut-être sur les Colvego, hein, ces milices d'autodéfense. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu aussi les désarmer? Merci, camarades. Je ne pense pas que Mamadou soit encore prêt. Alors, on va écouter William. Bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie.
Bonjour William. Bonjour. Vous avez une question, je crois.
Oui, j'ai deux questions, Stéphanie. Moi, je voulais savoir, votre invité, s'il peut, c'est moi qui parle, s'il peut, il peut me dire, moi, que pourquoi le Burkina n'a plus jamais connu la paix depuis la chute de Blaise Compaoré. Et est-ce que tout ce que les Burkinabés vivent aujourd'hui, c'est pas dû au départ de Blaise Compaoré? Et sinon, pourquoi, quand Blaise Compaoré était là durant 27 ans, il n'y a pas eu cette attaque terroriste? Parce que moi, il y a eu un changement de Premier ministre. Je ne trouve pas que ce soit une solution pour ce problème-là. Il y a une base, il y a une racine. Il faut aller jusqu'à la racine pour voir d'où sort le problème. Moi, de par ma vision, je vois que ça provient du camp de Blaise Compaoré depuis qu'il est parti. Et voilà, le Burkina aujourd'hui est en désastre.
On entend ça beaucoup, hein, depuis 2015, en effet. Hein, il est régulièrement dit que le Burkina Faso de sous Blaise Compaoré était plutôt protégé des terroristes par, hein, peut-être du rôle du président burkinabé dans la sous-région. On va demander à Aziz Dabo une réponse dans quelques instants. Avant cela, je vais écouter Mamadou, parce que je crois que Mamadou, c'est à peu près la même... vous aviez à peu près la même question, Mamadou. Mamadou, bonjour, c'est bon pour vous?
Oui, pas encore, mais bon, je vous dis bonjour, Madame Atman.
C'est gentil. Les 6 minutes sont passées.
À tous les auditeurs d'Africa Numéro 1, et surtout, tout particulièrement, on n'oublie pas, les collègues de Gonesse. Bon, moi, je suis dans le même aligné que nos précédents auditeurs. Comme quoi, en fait, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Parce que c'est ce que le monsieur Camara a dit, bon, il a fait un peu le lien. Mais pas assez pour qu'on comprenne vraiment le problème de Burkina d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a gouverné 27 ans, et on le prend comme ça, on le fait sortir du pays, parce qu'il y a eu une révolte démocratique par le peuple. Et il n'y a pas de jugement. Le Moussé, en plus, il se permet de changer de nationalité. Il n'y a pas de problème, mais depuis qu'il a quitté, comme il a dit le ex-auditeur, comme je vais dire le précédent auditeur...
Oui, tout à fait,
Mais attendez, quand même, on savait quand même qu'il y avait certaines personnes qui étaient logées, nourries, blanchies, à Ouagadougou.
Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire, Mamadou? Est-ce qu'il faudrait que le nouveau...
Il faut que l'ancien vienne d'abord, qu'il rende compte.
D'accord.
Pendant son gouvernance, et surtout qu'il arrête de former les gens, et surtout tous ces problèmes-là, qu'on dit les choses, Madame Atman. Ça vient de lui. Faut dire les choses.
Alors justement, Mamadou, merci Mamadou de votre participation. Alors justement, Aziz Dabo, je reviens vers vous, hein, j'allais dire votre leader, hein, Djibril Bassolé, puisque c'est l'ANAFA et son parti, la Nouvelle Alliance du Faso, était hein, ministre des Affaires étrangères sous Blaise Compaoré.
Oui,
on connaît.
Ministre des Affaires étrangères sous le président Compaoré.
C'est ce que, exactement.
De la sécurité aussi.
Et alors du coup, merci, j'allais vous demander, voilà, il est aussi comptable et responsable de la diplomatie sous-régionale dans la région. Et effectivement, pendant longtemps, des membres du MNLA ont été hébergés à Ouagadougou. Est-ce que vous faites clairement un lien entre le départ de Blaise Compaoré et le fait que le Burkina maintenant soit la cible d'attaque?
Moi, je ne ferai pas de lien par rapport à ça parce que ce n'est pas d'éléments qui me prouvent en réalité l'implication du président Compaoré dans cette situation actuelle. Parce que les terroristes...
La ligne se dégrade un peu, Aziz. Essayez de pas trop bouger, j'ai peur.
D'accord. Allez. Je voudrais dire que je n'ai pas d'éléments qui me permettent d'assurer que certains proches de Blaise Compaoré seraient impliqués dans ces attaques, parce que lorsque les terroristes arrivent, ils ne demandent ni l'appartenance politique ni l'appartenance ethnique de qui que ce soit avant d'attaquer. Et je ne vois pas quel est l'intérêt aujourd'hui que le Burkina, que des Burkinabés puissent avoir à ce que ce pays soit attaqué tous les jours. Maintenant, si on me dit que lorsque le président Compaoré était au pouvoir, bien sûr avec le régiment de sécurité présidentiel, il avait un management, un leadership qui permettait au Burkina Faso d'être épargné. Là, je peux comprendre. Mmh. Il y avait peut-être des accords. Là, je peux comprendre. Parce que en toute chose, bien sûr, il y a de la diplomatie officielle, il y a de la diplomatie officieuse. Et s'il y a la possibilité de s'entendre ou de nouer certaines relations avec certaines personnes pour qu'un pays soit épargné, pourquoi pas? Parce que la vie humaine n'a pas de prix.
Donc il faudrait que... Aziz Dabo, est-ce qu'il faudrait que le pouvoir actuel renoue ce même genre de relation tel que le faisait Blaise Compaoré?
Pourquoi pas? La vie humaine n'a pas de prix. Aujourd'hui, la quiétude des Burkinabés, cette quiétude n'a pas de prix.
Et je ne suis pas sûr que la diplomatie de Blaise Compaoré ait laissé de bons souvenirs dans la sous-région, cela dit.
Aucune main d'aide n'est de trop aujourd'hui pour la lutte contre le terrorisme. Parce que ce qui intéresse les Burkinabés, les fils et les filles du Burkina Faso aujourd'hui, c'est qu'il n'y ait plus d'attaques terroristes,
c'est très
qu'il
clair.
N'y ait plus de morts, c'est qu'il n'y ait plus de blessés. Maintenant, s'attaquer mutuellement, je ne pense pas que ce soit la solution pour trouver, les voies d'idoine pour y arriver.
Alors, Aziz...
ce qu'il faut faire aujourd'hui pour bouter le terrorisme loin de...
Alors justement, c'est la question sur le terrorisme. Je vais répéter ma question de tout à l'heure sur le terrorisme. Pour vous, il s'agit clairement d'actes terroristes, même si effectivement il n'y a aucune revendication. Est-ce que vous estimez que c'est des terroristes qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas burkinabés?
Je ne peux pas vous dire avec exactitude parce que il y a des Burkinabés qui ont été pris, puisqu'il y a eu des terroristes qui ont été appréhendés, abattus à Ouagadougou.
Donc c'est un problème intérieur aussi, c'est ça?
Voilà, il y avait des Burkinabés dedans. Donc je ne peux pas vous dire avec exactitude que ce ne sont pas des Burkinabés. Mais vous voyez, au niveau du Niger, depuis la Libye, le Mali, mais ce sont des gens qui se déplacent et qui viennent faire leur basse besoin et repartent. Donc, je ne peux pas vous dire clairement parce que la précarité qui sévit au niveau du Sahel aujourd'hui fait que c'est très facile, en fait, d'endoctriner des jeunes, leur faire croire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la guerre sainte parce que les gens sont démunis, les moyens financiers manquent. Donc, très facilement, on approche ces jeunes-là, on les endoctrine, on les radicalise et ils peuvent être même burkinabés et poser des actes contre leur pays, se disant que peut-être la voie qu'ils ont choisie, c'est la meilleure, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est pourquoi très souvent nous disons de ne pas dire djihadisme, mais de dire que c'est du terrorisme. Ce ne sont pas des gens qui font de la guerre saine ainsi, ce sont parfois des voyous, des délinquants qui posent ces actes. Ce ne sont pas vraiment des personnes lucides parce que, comme je l'ai dit, un Burkinabé qui attaque son pays, bien sûr, ça suscite certaines interrogations. Mmh. C'est pourquoi je suis de ceux-là qui pensent que je ne crois pas que le président Blaise Compaoré gagnerait aujourd'hui à voir son pays en feu et à sang aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y gagnerait? Un pays où il est resté 27 ans, où il a fait bien tout sûr. Ce qui est de son pouvoir, bien sûr, pour que tout aille bien.
Personne n'a dit qu'il avait commandité ces attaques ou il était quelqu'un, puisqu'il y a eu un malentendu tout à l'heure. Voilà, les auditeurs disaient juste que faisaient le lien entre son départ, le fait que Burkina Faso était protégé quand il était président et qu'il ne l'est plus. Autre question, Aziz Dabo. Un auditeur évoquait tout à l'heure l'armement et le fait, effectivement, hein, parfois la course, les uns et les autres s'arment. via des milices d'autodéfense. On voit ça au Mali, on voit ça aussi au Burkina Faso. Il y a le cas des Colvego. Est-ce qu'il aurait fallu désarmer ces gens-là?
Vous voyez, la question des groupes ou milices d'autodéfense est assez complexe parce que l'État même a montré à certains niveaux, dans certaines localités, son incapacité à assurer la sécurité des personnes et des biens. Mmh. Et c'est dans cette optique que certains se sont organisés en groupes d'autodéfense. Maintenant, leur organisation pose des problèmes. Quand je dis qu'elle pose des problèmes, parce qu'ils perçoivent des taxes, ils travaillent d'une manière peu...
C'est quasiment des com-zones, des commandants de zone, Aziz Dabo.
Vous dites ?
C'est quasiment des com-zones, des commandants de zone. C'est ce qu'on a vu dans le nord de la Côte d'Ivoire ou encore en Centrafrique, où finalement, ce sont des groupes armés qui administrent des territoires.
Ce qui est sûr, ils possèdent des armes, ils perçoivent, je pourrais dire même des impôts, des taxes... sur les populations. Lorsque un a volé quelque chose, il doit payer telle somme, il se permet de procéder à des arrestations, des sévices corporels. Donc vraiment, parfois, c'est pas du tout ce qui est recommandé, parce que force doit rester à la loi.
Donc si je comprends bien, Aziz Dabo, vous n'êtes pas tout à fait contre ces milices d'autodéfense, au contraire d'ailleurs, mais vous dites qu'il faut revoir leur organisation.
Vous savez, la difficulté, la complexité des groupes d'autodéfense, c'est que ce sont les populations dans certaines localités ayant été abandonnées par le pouvoir qui n'a pas les moyens d'assurer leur sécurité qui se sont organisées. Donc, ça, c'est l'objet de débats, c'est l'objet de discussions, parce que vous vous imaginez dans une localité, lorsqu'il y a des vols, il y a des attaques, et c'est dans cette localité, les populations s'organisent, et aujourd'hui, il n'y a plus d'attaques, il n'y a plus de vols. Qu'est-ce que moi, si moi je dis que je suis contre, ces populations-là diront « Ah, mais voici aujourd'hui, nous avons la quiétude, nous avons la sécurité en notre sein ». Vous voyez comment c'est complexe.
On comprend bien, Aziz Dabo. Alors, je vais aller un peu plus loin dans ma réflexion. On va y aller tranquillement. Alors, quand Boubacari Diallo, secrétaire général de l'Union nationale des Rouga de Burkina, dresse une liste de 110 victimes, toutes peules, dans la ville de Yirgu, et accuse les Colvego, est-ce que ces ministres d'autodéfense ne posent-elles pas un problème?
Déjà, il faut dire que le dernier bilan fait état de 210 personnes.
Tout à fait, j'ai cité le bilan des Rouga.
Voilà, 210 personnes qui sont mortes. Et il faut expliquer cette situation malheureuse, jamais vue au Burkina Faso. Il faut le dire, c'est un génocide. Parce que ce qui est arrivé, c'est que des personnes seraient venues abattre le chef du village, son neveu et son fils. Et il semblerait que ces personnes ressembleraient à des peules. Donc, ce qui s'en est suivi, c'est que les Kogluogo, je précise moi aussi, bien sûr, qui ont pris en chasse ces individus qui sont venus attaquer le chef et certains membres de sa famille. Il y a eu, je crois, 2 morts dedans. Et lorsque les Kogluogo sont revenus à leur quartier général, ils ont commencé tout d'abord par égorger les Kogluogo Peul avant de s'attaquer à toute la communauté Peul vivant à Yirgu. Ce qui a conduit à un massacre de la communauté Peul dans la localité, dans la zone de Yirgu. Donc nous pouvons compter que des Peul qui ont été tués là-bas. C'est pourquoi nous parlons de génocide, nous parlons d'un massacre contre l'ethnie Peul en réalité. Et bien sûr, ça ramène la question, est-ce que les Kogluogo peuvent en toute impunité poser de tels actes? Parce que jusqu'à présent, lorsqu'on en parle, lorsqu'on parle de Yirgu, il n'y a eu aucune arrestation. Le président du Faso s'est déplacé sur la localité de Yirgu. Tenez-vous bien qu'il a été accueilli par ces mêmes Kogluogo qui, il semblerait, seraient à l'origine de ce massacre leurs armes. Et il leur aurait dit en langue nationale qu'il leur demande pardon, qu'ils n'ont qu'à voir dans quelle mesure est-ce qu'ils vont se réorganiser d'une autre manière. Donc aujourd'hui, ça pose un grand problème parce que qu'on soit Kogluogo, qu'on ne soit pas Kogluogo, bien sûr, force doit rester à la loi. Et si des massacres ont été commis du côté de Yirgu, il n'y a pas de raison que justice ne soit pas faite, parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, la communauté Peul est très mal à l'aise.
Dans tout le Sahel, d'ailleurs, mon cher Aziz Dabo.
Elle est marginalisée. Bon. La communauté Peul a l'impression aujourd'hui d'être abandonnée par l'État. La communauté Peul, de plus en plus, s'inquiète parce que très souvent, il est dit, je pèse mes mots, être Peul, c'est être terroriste. Vous imaginez jusqu'à quel point nous en arrivons. Et le fait
beaucoup d'amalgame actuellement.
Le fait de ne pas y avoir une justice, c'est qu'aujourd'hui, les Peuls se disent, ben, qui peuvent être tués et à rien. Et tout ça, nous le déplorons, nous estimons que ça devient un conflit ethnique et c'est très grave.
Très inquiétant,
et,
oui.
Les mesures doivent être prises et justice doit être rendue.
Merci Aziz. Restez encore à l'écoute, on va donner la parole on va essayer d'écouter De Saïd. De Saïd, vous êtes là?
Oui, bonjour Madame Ackman et à votre invité.
Bonjour De Saïd. Oui, vous pouvez couper votre kit main libre, s'il vous plaît?
Oui, je coupe, s'il vous plaît, je vais le couper là.
Allez.
Ça va bien se passer tout de suite. Allez.
Allez.
Donc, je disais que je participe au débat. Je ne vais pas être long, mais à mon avis, tout le monde, déjà depuis très longtemps, on a accusé Blaise Compaoré d'avoir hébergé même tous ces terroristes-là. Moi, je soutiens cela. Parce que depuis qu'il est là, il n'y avait pas ça. Et depuis que Blaise Compaoré a hébergé tous les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, il y a eu des milliers de tonnes d'armes au Burkina Faso. Et Blaise Compaoré est parti, il y avait plus de contrôle sur ça. Et ceux qui ont été formés pour attaquer, pas tous qui sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont encore là. Et aujourd'hui, là, Blaise Compaoré n'est plus là pour les nourrir. Et donc, ils sont obligés d'attaquer le Burkina Faso pour se nourrir. Et à mon avis,
on ne peut
pas accuser les anciens qui étaient là, qui avaient hébergé, qui attaquaient, mais il y a déjà plusieurs groupes de terroristes qui attaquent le Burkina Faso. C'est désolant pour le Burkina, qui n'avait pas mérité ça, mais ça a été préparé par un homme qui est Blaise Compaoré. Merci.
Bon, on n'a pas de preuve, hein, ça n'engage que vous, mon cher De Saïd. Personne n'a dit que c'était Blaise Compaoré qui était derrière ces attaques. Il y a Philippe qui patiente depuis un bout de temps. Bonjour Philippe, excusez-moi.
Bonjour maman Stéphanie, bonjour tout le monde. Hein.
Bonjour Philippe. Vous avez vous faites un parallèle entre la situation au Mali et celle au Burkina Faso. Est-ce que vous y voyez des similitudes?
Non, moi, à mon avis, ce que moi j'ai constaté est que pourquoi aujourd'hui, depuis, comme dit M. William, depuis le départ de M. Blaise Compaoré, qui s'est exilé en Côte d'Ivoire, devenu ivoirien après 27 ans de rule, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose caché dans cette affaire? Parce qu'on n'a pas connu le Burkina Faso dans cet état d'agression. Quand il était là, il a fait 27 ans. On n'a jamais entendu un truc comme ça. Et depuis qu'il est parti, ce pays n'a plus de paix. Et pourquoi on ne peut pas juger tous ces gens qui ont commis des crimes, qui sont là? On ne les juge pas. Moi, j'ai vu que le président actuel aussi, il est quelque part, il n'a pas l'habilité, ou je ne sais pas, ou bien il y a des choses qui cachent au Burkinabé. Il y a quelque chose qui est caché là, madame. Il y a quelque chose qui est caché. Parce que cette attaque, ça devient trop. Et on n'a jamais vu ça pendant Blaise Compaoré. Donc, il faudrait qu'on appelle, qu'on s'approche de lui et lui poser quelques questions. C'est possible.
Pour vous, c'est l'ancien président qui a des comptes à rendre.
Qui a des comptes à rendre. Donc, il faut qu'on le parle. Il faut qu'on l'approche. Il faut qu'on s'approche de lui. Et puis, ou bien aller là-bas même, le poser si tu es vraiment le pays que tu as dirigé pendant 27 ans. On n'a jamais vu ça dans le monde entier où un président dirige un pays pendant 27 ans.
Oh, Philippe, on voit ça partout. Il y en a un pas loin, il y en a un au Cameroun qui a dépassé les 30 ans. Merci beaucoup, Philippe. On arrive à la fin de cette émission. Aziz Dabo, j'avais juste une dernière question, une réponse très courte. Le Burkina Faso préside depuis quelques jours le G5 Sahel. Est-ce que selon vous, ça peut être une bonne chose, notamment dans la mobilisation de moyens et de ressources?
Je pense que c'est une tribune pour le Burkina Faso. Déjà, il est dit qu'il y a un centre qui sera mis sur le sol sahélien d'analyse de l'alerte précoce. Ça va permettre de former des soldats burkinabés et des soldats, bien sûr, aussi de la zone du G5 Sahel. C'est une opportunité qu'il faut saisir. Bien sûr, en faire une tribune, voir dans quelle mesure est-ce que nous pourrions faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour qu'ils accompagnent, pour qu'ils voient que la situation sécuritaire au Burkina Faso est des plus précaires afin que, bien sûr, on arrive à bouter le terrorisme hors de nos frontières. Il faut profiter de cette tribune. Il faut en faire un combat
Il faut se battre, bien sûr, pour y arriver. Et il faut dépolitiser la question.
C'est très clair. Merci beaucoup, Aziz Dabo. On restera sur ce que vous avez dit. Dépolitiser la question sécuritaire au Burkina Faso. Merci, Aziz Dabo, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes secrétaire adjoint exécutif et porte-parole de la NAFA. C'est la nouvelle alliance du Faso, parti d'opposition au Burkina Faso. Merci à tous, chers auditeurs, de votre participation. N'hésitez pas, continuez le débat sur notre page facebook.com. Et puis demain, nous pourrons en reparler, parce que demain, c'est la libre antenne du JDA. Inscrivez-vous en laissant un message sur le répondeur 01 55 07 58 05. À demain.